passer la parole à Michel Bernard, qui enseigne à l'Université de Paris 3, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé tout à fait pertinemment « Introduction aux études littéraires assistées par ordinateur », ouvrage évidemment à mettre entre toutes les mains, et publié dans la collection Écriture électronique au PUF, sous la direction de Nathalie Ferrand, dont je salue ici la présence. Alors, je vous laisse maintenant la parole. On va essayer de ne pas trop déborder, tout en vous laissant tout votre temps.
Merci. Oui, je vais essayer effectivement de...
On avait commencé un petit peu en retard, il faut dire.
De me concentrer en tant que vous m'avez imparti et de laisser un peu de temps pour la discussion. Je dirais aussi tout de suite, d'ailleurs, que toutes les questions et toutes les interventions sont les bienvenues, hein, y compris dans le cours de mon exposé, qui aura, dans certains cas, le caractère d'une démonstration. Et je vous invite, si vous avez des questions ou des remarques à faire, à les faire directement. C'est un des effets du confort que nous procure François Rastier en nous permettant de nous exprimer assez longuement. Je le remercie aussi de me donner ainsi l'occasion de faire le point sur le plan méthodologique, sur une méthode que j'utilise depuis maintenant 4 ans. Je vais essayer d'afficher les informations qui peuvent vous être utiles. Voilà. Et il y a donc 4 ans que j'utilise une méthode qui permet de comparer des corpus et en particulier d'essayer de déterminer quel est le vocabulaire spécifique d'une œuvre littéraire. J'ai publié des études de ce genre dans les volumes de d'Hubert de Falaise, la collection Kappa Greg, sur Apollinaire tout d'abord, puis sur Claude Simon, Madame de Staël et La Forgue, dans le volume qui vient de paraître. J'ai par ailleurs présenté des résultats de ce genre dans des conférences sur Saint John Perse récemment et sur Nathalie Sarraute. C'est donc une méthode que j'utilise, dont j'ai déjà publié certains résultats, mais l'invitation d'aujourd'hui me donne l'occasion d'en parler du point de vue méthodologique. J'ai choisi de travailler encore sur un autre auteur, j'ai choisi de travailler sur la recherche. Le fait de travailler sur Marcel Proust a plusieurs avantages. Il s'agit d'abord d'une œuvre bien connue et vous pourrez donc mieux apprécier les résultats que je vais vous montrer. C'est également du point de vue statistique un ensemble assez important, très cohérent. Et c'est aussi une manière de dialoguer avec Étienne Brunet, puisque, vous le savez, il a publié en 1983 un vocabulaire de Proust, qui n'a pas pris une ride d'ailleurs, je m'en suis aperçu à l'occasion de cette étude. Et c'est une bonne manière, je crois, de faire une sorte de bilan d'étape des méthodes dont il nous a présenté un assez grand nombre, ce qui me permettra d'abord de comparer avec certains de ces résultats, puisque la méthode que j'utilise est très légèrement différente de celle qu'il avait mise en œuvre, mais aussi de comparer les résultats obtenus il y a 17 ans et sur des bases méthodologiques très légèrement différentes. Le corpus lui-même, c'est celui de Frantexte, évidemment, c'est-à-dire l'édition Clarac, choix qui s'imposait tout naturellement en 1983, qui fait problème à certains proustiens aujourd'hui depuis la publication non seulement de l'édition Tadier dans la Pléiade, mais des éditions Garnier-Flammarion. Mais je travaillerai sur ce corpus-là, c'est celui qui était disponible. Je voudrais dire quelques mots sur la procédure adoptée pour rester très, très concret et très pratique, mais je voudrais surtout m'attarder ensuite sur le type de résultats que l'on peut obtenir et sur des questions méthodologiques. Alors, pour ce qui est de la marche à suivre, j'ai utilisé le calcul des spécificités. Un mot simplement là-dessus, parce que l'ouvrage d'Étienne Brunet met en œuvre le calcul des écarts réduits. Étienne Brunet disait en 1983 qu'il avait utilisé cette méthode pour des raisons pratiques, économiques. Vous imaginez ou vous connaissez les progrès qu'ont fait les ordinateurs depuis 17 ans. Il était en 1983 très complexe et très long de pratiquer le calcul des spécificités, qui est beaucoup plus gourmand en temps machine, sur l'ensemble d'un corpus aussi vaste. Mais Étienne Brunet avait déjà prévu les objections qui ne manquait pas de se faire dès cette époque du point de vue théorique, et il s'est expliqué longuement dans son ouvrage sur la différence qu'il pouvait y avoir entre le calcul des spécificités et le calcul de l'écart réduit, en produisant des tableaux qui montrent que la hiérarchie est conservée, la seule différence provenant des faibles effectifs, c'est-à-dire que lorsque les fréquences sont assez faibles, le calcul de l'écart réduit rend les choses un peu plus difficiles. Il évaluait ça pour la recherche à une fréquence théorique de 5. Enfin, lorsque la fréquence dans le corpus s'abaisse en dessous de 300, valeur pour laquelle la fréquence théorique dans la recherche dépasse à peine 5, c'est-à-dire que le fait que j'utilise le calcul des spécificités, ce que me permettent les ordinateurs d'aujourd'hui, n'invalide en rien la méthode utilisée et qui, vous le verrez, dans un grand nombre de cas, revient à peu près au même. Ça donne simplement une possibilité supplémentaire, c'est de pratiquer des analyses très sûres sur des effectifs faibles, ce qui en matière littéraire est souvent nécessaire. Hein, on ne travaille pas toujours sur des prépositions ou des mots ou des formes en effectif très importants. Il y a une autre différence importante entre le traitement proposé par Étienne Brunet en 1983 et celui dont je vais vous montrer des résultats, c'est qu'il travaillait sur un corpus lemmatisé, c'est-à-dire que les différentes formes d'un mot avaient été regroupées par des traitements que permet la banque Frontex, que je n'ai pas suivi. Non pas pour rallumer des querelles rabelaisiennes entre les partisans de la lemmatisation et ceux qui ne la pratiquent pas, mais là aussi faisant de nécessité vertu, parce que je ne disposais pas des fonctions de lemmatisation dont il s'est servi. J'ai entendu d'ailleurs dans son exposé tout à l'heure quelques réticences à l'égard des corpus lemmatisés. C'est peut-être une manière d'engager un débat tout à l'heure là-dessus. Mais il s'agit donc d'un corpus qui n'est pas lemmatisé. Alors, la marche à suivre est devenue là aussi beaucoup plus simple aujourd'hui, puisque il est possible de travailler en ligne, vous le savez, avec Internet, puisque Frontex est accessible en ligne. Malheureusement, il s'agit d'un accès sur abonnement et sur des machines repérés par leur numéro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore travailler de chez soi avec Frontex, mais il s'agit d'abord de sélectionner un corpus. Alors, dans mon cas, j'ai pris l'ensemble de l'œuvre de Proust, puisque dans Frontex, il n'y a que la recherche, ce qui constitue déjà un échantillonnage important. Voici donc la page de sélection de ce corpus. Il s'agit de l'intégralité de l'édition Pléiade de la recherche. Donc il y a 19 textes, mais avec des découpages à l'intérieur de certains romans, comme vous le voyez ici. Si je vous montre cette page-là, c'est aussi pour vous montrer que j'ai été tributaire d'un certain nombre de classifications génériques et chronologiques qui sont celles de Frontext. La recherche est identifiée comme prose et roman, ce qui tombe sous le sens, ce qui parfois pour certaines œuvres pose un peu plus de problèmes. Mais dans les rapprochements que je ferai tout à l'heure, je me suis basé uniquement sur la typologie de Frontext. Même chose pour les dates. Certains Proustiens pourraient dire qu'il aurait été sans doute plus intéressant de prendre compte de certaines éditions ou même de l'écriture des textes, mais on est tributaire ici de ces dates. Là, c'est-à-dire que la recherche est réputée écrite entre 1913 et 1922. Hein, là aussi, pour les comparaisons, on est tributaire de ces choix qui ont été faits par Frontext. Saute. Bon. Alors, la deuxième étape, c'est d'extraire un index toujours à partir de l'interface web de Frontex. C'est quelque chose qui est très commode. Il y a un menu fréquence qui permet d'obtenir, si on le souhaite, les fréquences de l'ensemble du corpus. Alors là aussi, c'est une possibilité que je vous signale et qui est très intéressante pour tous ceux qui souhaitent travailler sur des corpus, puisque il est inutile à ce moment-là de disposer du texte original. On peut obtenir l'index intégral. Il faut un peu de patience et des ordinateurs assez puissant, mais on peut obtenir l'intégralité de l'index d'un corpus. Alors ici, c'est tout Proust, mais il pourrait s'agir d'autres corpus. Je vous en montrerai des exemples. Le fichier obtenu, c'est un fichier texte qu'il est très facile de réutiliser dans un programme d'ordinateur ou même d'afficher dans un traitement de texte. Et on peut de cette manière faire des traitements de manière très, très commode, sans disposer des textes numérisés, ce qui est toujours un problème. Cet index est ensuite passé dans une moulinette, comme disent les informaticiens, qui est tout simplement un petit programme que j'ai écrit moi-même, sur la base d'ailleurs d'un module de calcul qui m'a été fourni par Pierre Muller, qui est l'auteur du logiciel Piste, et qui me permet de calculer simplement les spécificités des formes d'un sous-corpus par rapport à un corpus. Par exemple, le vocabulaire de Proust par rapport au vocabulaire du roman entre 1913 et 1922. Donc, extraction dans Frontext, mixage en quelque sorte et calcul de ces deux index, l'un contenant l'autre éventuellement, mais ça n'est pas. Ça n'est pas toujours obligatoire, on en verra quelques exemples tout à l'heure. Et ça permet de calculer donc la spécificité, c'est-à-dire de manière statistique assez robuste et fiable, la fréquence ou la rareté, et le degré de fréquence et le degré de rareté d'une forme d'un sous-corpus à l'intérieur d'un corpus. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions, on verra quelques exemples tout à l'heure. La chose va de soi sur des exemples. La dernière étape, c'est tout simplement d'importer le résultat de mon petit programme dans la base de données Access et on va pouvoir manipuler ces différents résultats. Hein, donc, je voulais simplement préciser de quelle manière j'avais travaillé. Ça vient un peu en complément de ce que disait Étienne Brunet tout à l'heure, qui nous a fait un panorama assez vertigineux de toutes les méthodes statistiques. Ce que je fais est beaucoup plus humble du point de vue théorique, c'est simplement suivre pas à pas une méthode d'analyse et d'évaluation des différences entre les corpus. Alors, le résultat obtenu, c'est par exemple celui-ci. Voilà par exemple Proust comparé au roman publié entre 1913 et 1922. Je vous montre une fois le résultat que l'on obtient, je vous montrerai ensuite des sorties un peu nettoyées parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de scories évidemment dans ce que produit l'ordinateur. Alors voilà comment ça se présente. Vous voyez, on a toutes les formes que l'on trouve donc dans ce corpus général qui comprend tous les romans, y compris ceux de Proust, bien entendu. On a ensuite le nombre la fréquence sur l'ensemble du corpus. Là, on a quelque chose d'un peu mélangé. On pourrait le trier, évidemment, le logiciel est fait pour ça. La fréquence partielle. Et puis la spécificité, alors qui est composée ici de trois parties, le signe, spécificité positive ou négative. On parle de spécificité positive quand la forme est beaucoup plus fréquente que ce que l'on pourrait attendre par une simple règle de trois, ou négative, lorsque, à l'inverse, elle est beaucoup plus rare que ce que l'on pourrait attendre. Le chiffre intéressant, c'est celui-ci, c'est celui de l'exposant. Alors là, il est évidemment très faible dans ces cas-là. Je vais essayer de trouver des exposants plus conséquents. Voici, par exemple. Vous voyez, on me dit que le nom d'Orteg, je ne sais pas de quelle œuvre ça vient, ça d'ailleurs. Quelqu'un connaît le personnage d'Orteg? Non. Bon, enfin, il y a donc un des romans de la période qui a un personnage qui s'appelle Orteg. Et évidemment, il est présent 283 fois dans ce corpus et zéro fois chez Proust, qui ne connaît pas ce patronyme. Ce qui donne une spécificité négative, chez Proust, évidemment, qui est assez forte ici, qui est de 6 multiplié par 10 puissance moins 55, c'est-à-dire une chance sur 1 suivi de 55 zéros. Hein, vous voyez, donc on peut dire de cette manière que la spécificité négative est vraiment très forte. Elle est par ailleurs parfaitement triviale, puisque c'est tout simplement un nom de personnage qui n'apparaît pas chez Proust. Alors, voilà donc le genre de résultat qu'on obtient, et il faut évidemment les trier pour que ça ait un peu de sens. Voilà le tri que l'on obtient pour le même corpus. Alors, Proust, dans les romans de la période, c'est ceci. C'est simplement un tri des spécificités qui va me permettre d'obtenir en tête, vous voyez ici, les formes spécifiques, les formes qui ont la plus grande spécificité. Vous voyez qu'on est dans des exposants de l'ordre de 1195 hein, pour le premier, c'est-à-dire une spécificité colossale. Alors là aussi, on va trouver des choses assez triviales au début. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, je vous donnerai des index un peu nettoyés, en particulier des noms propres. Il est bien évident qu'on va trouver le nom d'Albertine ou le nom d'Eguermante comme spécificité positive très forte chez Proust, tout simplement parce que ce sont des noms imaginaires qui n'ont pas été repris par les contemporains. On va trouver, en revanche, en fouillant un peu là-dedans, comme l'orpailleur fouille dans le sable, on va trouver des choses plus intéressantes, comme par exemple cette présence qu'on verra plusieurs fois de la forme que, alors qui n'est pas désambiguisée, c'est-à-dire qui peut être aussi bien un pronom relatif qu'une conjonction, mais qui est tout à fait caractéristique du style de Proust. Là, avec aussi des spécificités très très importantes. Donc, et on va descendre ainsi, alors à travers quelques noms propres, l'appellatif Madame, vous voyez, que l'on trouve ici, le Q apostrophe, qui confirme bien qu'il n'y a pas un artefact dans le fait que nous ayons trouvé tout à l'heure que, puisque la forme et l'idée s'y trouvent aussi. Et puis encore quelques personnages. Il ne s'agit pas d'un loup ici, mais de Saint-Loup, bien entendu, qui a été découpé par le codage de Frantext. Et puis la forme AV, ici, qui nous indique deux choses, vous voyez, à la fois, puisqu'on a affaire à un corpus qui n'a pas été lemmatisé. L'importance de l'auxiliaire avoir, ce dont on aurait peut-être pu se douter, mais surtout de l'imparfait, de la troisième personne, qui marque, vous voyez, de manière stylistique, d'une certaine manière, la recherche par rapport aux œuvres de son époque. Bon, je ne vais pas éplucher l'ensemble de l'index comme ça. Je vous montre simplement que l'on trouve un peu plus loin les formes négatives, les spécificités négatives, classées de la même manière. Je vais remonter en tête de cette liste hiérarchique. La voici. Alors là, on trouve même, vous voyez, lorsque vous avez une spécificité marquée comme ça, c'est tout simplement que mon logiciel a calé. La spécificité était tellement forte qu'il n'est pas arrivé à le calculer. Il calcule pourtant jusqu'à des puissances de 10 puissance moins 1200 à peu près. Mais là, c'est trop fort, donc il me met des 9 partout pour me faire comprendre qu'il renonce à calculer, qu'il ne faut pas que je m'y fie. Simplement, il m'indique quand même que les points de suspension et le point sont en spécificité très très faible chez Proust. Alors pour le point, on aurait pu s'en douter, c'est tout simplement dû à la longueur des phrases. Plus les phrases sont longues, moins il y a de points. Le point de suspension également est une ponctuation que Proust n'aime pas beaucoup. On trouve ensuite, de la même manière, des noms propres qui sont dans le reste du corpus et qui ne sont pas chez Proust. Et puis on va trouver là aussi, en fouillant un peu dans cette boîte à outils, on va trouver des spécificités négatives un peu plus intéressantes du point de vue de l'analyse littéraire. Par exemple, AS ici, qui n'est pas un as, sauf peut-être dans quelques cas, mais qui est la forme du verbe avoir. On a vu tout à l'heure que avait, la troisième personne, était très fréquent. A est très peu fréquent. Étienne Brunet avait déjà repéré la très faible fréquence de la deuxième personne du singulier. Dans la recherche. Les personnages, quand ils s'expriment au discours direct, se vouvoient la plupart du temps, et le discours direct est lui-même en sous-fréquence. Donc voilà pourquoi on retrouve cette forme-là, ainsi que d'autres qui, d'ailleurs, avaient pour la plupart tout été repérés dans le livre d'Étienne Brunet. Bien, alors, à partir de là, on va donc travailler. Décidément. Voilà. On va donc travailler sur des index avec un certain nombre de corpus. Alors, on peut penser à plusieurs corpus, et ce qui est intéressant, c'est de les faire varier, justement. Le premier corpus auquel j'ai pensé, c'est de prendre tout franc texte pour la période 1913-1922. C'est un corpus qui a l'intérêt de donner peut-être une idée de ce que l'on pourrait appeler, en mettant toutes sortes de guillemets imbriqués, la langue de l'époque. Mais vous voyez pourquoi toutes ces précautions, c'est que c'est quelque chose qui n'existe pas, la langue entre 1913 et 1922. On a là simplement un corpus qui a été choisi suivant des voies parfois impénétrables d'ailleurs, ou un peu aléatoire dans certains cas. Et de toute manière, lorsqu'il y a une logique, elle est plutôt lexicographique. Étienne Brunet le rappelait tout à l'heure. Donc il n'y a pas là un corpus qui serait représentatif forcément de ce que nous attendons en littérature. Mais l'avantage, c'est que l'on a ici la comparaison possible avec des textes qui ne sont pas littéraires. Ça permet aussi de situer. On a toute chance, cependant, on le verra tout à l'heure, de s'apercevoir que Proust n'est plus à ce moment-là caractérisé que par le fait qu'il est un auteur littéraire, et seulement de ce point de vue-là. L'idée vient donc de le comparer seulement avec les romans entre 1913 et 1922. Une autre gêne là-dedans, c'est que Proust représente une proportion évidemment considérable dans le roman entre 1913 et 1922. Je vous montrerai la taille des corpus tout à l'heure, c'est un autre risque. Alors on peut prendre du recul et comparer avec l'ensemble des romans entre 1850 et 1950. Je ne cherchais pas d'autres raisons à ces dates que de donner un compte rond, mais c'est une période beaucoup plus large d'un siècle dans laquelle se trouve comprise l'œuvre de Proust. L'inconvénient, évidemment, c'est que l'on compare Proust à la fois avec ses prédécesseurs et ses successeurs. Alors, l'idée peut venir aussi de comparer seulement avec ce qui précède et ce qui se confond avec Proust, donc les romans entre 1850 et 1922, ou bien à l'inverse, ce qui suit, c'est-à-dire les romans entre 1913 et 1950, avec l'idée de retrouver peut-être l'influence de Proust, ou bien de savoir comment les successeurs de Proust ont utilisé ce patrimoine lexical déjà utilisé par Proust. Mais il est possible aussi de le comparer ponctuellement avec d'autres auteurs. Je vous proposerai tout à l'heure des comparaisons avec les romans de Barrès, très nombreux dans la base nancéenne, ou les romans d'Anatole France, qui sont des auteurs qui, pour une raison ou l'autre, ont pu être rapprochés, ne serait-ce que chronologiquement, de Proust. On peut aller sélectionner n'importe quel corpus, ce sont cette fois-ci des corpus disjoints. C'est-à-dire qu'il faut constituer un corpus global avec Proust plus Barrès, par exemple, et ensuite distinguer quelles sont les particularités de Proust à l'intérieur de ce grand corpus. La méthode des spécificités a justement l'avantage de permettre de comparer des corpus qui sont inégaux en volume. Mais on peut aussi utiliser des corpus disjoints tout à fait différents. Et j'ai par exemple essayé de comparer la recherche avec les romans de la période 1950-1970, partant de l'idée que l'on parlait souvent de la modernité de Proust ou que, à l'inverse, on assurait que beaucoup de romanciers de cette époque-là étaient des admirateurs et peut-être des auteurs qui avaient imité Proust. On peut essayer de le vérifier de cette manière. Ou alors, partant du principe que l'on parle de prose poétique, s'agissant de Proust, le comparer avec un corpus de poésie cette fois-ci. La poésie entre 1850 et 1950. Comment se caractérise Proust par rapport à ce corpus? Mais alors, ces résultats, je vais vous les faire passer. Je ne sais pas si j'aurai un nombre suffisant d'exemplaires. J'en ai prévu une trentaine, me semble-t-il. Voilà, il faudra donc que vous suiviez à deux éventuellement lorsque vous êtes ensemble, mais il m'a paru plus simple de vous distribuer ça plutôt que de l'afficher parce que la lecture de tableau n'est pas très agréable sous cette forme-là. Un mot pendant que les feuilles circulent sur la taille des corpus. Je vous le disais tout à l'heure, la méthode statistique des spécificités permet de s'affranchir de la différence entre les corpus. Mais il est bon quand même de s'en inquiéter, ne serait-ce que pour savoir à quoi l'on doit attribuer les spécificités que nous allons trouver. Vous avez ici, est-ce que j'ai un petit marqueur? Oui, voilà. Vous avez ici l'œuvre de Proust. C'est ici. Voilà. L'œuvre de Proust, c'est ce petit carré vert, avec les autres corpus auxquels j'ai pu la comparer. Il est évident que les œuvres les plus proches sont celles de Barrès, ici, et Anatole France. Ah, il ne figure pas sur la légende. Hein. Les deux petits blocs qui sont ici sont les œuvres romanesques de Barrès et d'Anatole France, qui sont là des corpus à peu près de la même taille. Il est bien évident qu'on a quelque chose de tout à fait différent s'agissant ici des romans entre 1850 et 1950, qui est un corpus tout à fait considérable. Vous voyez, si on compare l'œuvre de Proust avec cette quantité, on a, vous le voyez ici, plus de 35 millions de mots dans ce corpus, et il y a donc une très grande différence. Et puis, je pense que le code des couleurs est assez clair. Vous voyez qu'on a ici les romans entre 1913 et 1922. Je vous parlais tout à l'heure de la. Non, pardon, c'est ceci. Celui-ci. Voilà, là où j'ai fait un point. Le corpus de Proust, vous voyez, représente près du tiers, hein, du corpus romanesque dans cette période-là. Ce sera certainement plus intéressant si on noie l'œuvre de Proust dans les romans ici, par exemple, entre 1850 et 1922. Sinon, on risque tout simplement de mesurer à nouveau l'œuvre de Proust, ce qui n'a pas tellement d'intérêt, ne permet pas une comparaison fine. Alors, voilà donc pour la taille des corpus. On va jeter un coup d'œil sur les documents que vous avez entre les mains. Je ne vais pas, enfin, je n'ai pas le temps et je dirais même, je n'ai pas la compétence proustienne pour faire à partir de là une analyse littéraire. Hein, c'est un matériau pour l'étude. Je veux simplement attirer votre attention donner l'exemple. Attirer votre attention sur un certain nombre de phénomènes. Alors, ce que j'ai figuré dans la première page sur les spécificités positives, ce sont donc les spécificités d'un certain nombre de l'œuvre de Proust comparées à un certain nombre de corpus que je viens de vous présenter. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette liste de spécificités n'est pas toujours la même et qu'il y a des changements dans l'ordre qui mérite le commentaire ou l'explication. Alors, quelques pistes simplement pour lire ces documents. J'ai extrait tous les noms propres que nous avons vu tout à l'heure en grand nombre, parce qu'ils n'offrent pas de grand intérêt, évidemment. En revanche, j'ai laissé, vous voyez, certains signes typographiques. Pour tout dire, j'en ai exclu un, ce sont les guillemets, parce que il est amusant de voir qu'Étienne Brunet avait le même problème en 1983. Le codage de Frontex pour certains signes typographie n'a pas toujours été le même suivant les époques, ce qui fait que les comparaisons sont un peu risquées parfois, hein. Mais j'ai laissé ceux qui présentent une certaine cohérence dans l'ensemble du corpus. On trouve par exemple les parenthèses dans les formes qui sont spécifiques de Proust. Alors, dans la première colonne, on a les romans 1913-1922. Vous voyez qu'on retrouve presque dans toutes les colonnes la forme que, éventuellement, et l'idée. En revanche, dans les romans 1913-1950, c'est le mot duchesse qui remonte un petit peu. Je crois que enfin, que la raison en est évidente, c'est qu'on a affaire à un corpus plus moderne et que l'on parle plus de duchesse. Avant 1913, disons qu'après. Hein, donc, dans le corpus moderne, on a quelque chose d'un peu plus, on a quelque chose d'assez particulier du côté de duchesse. Vous voyez aussi la même chose pour princesse. Hein, le mot princesse, dans la comparaison avec les romans plus récents, remonte aussi, évidemment, parce que du coup, Proust est beaucoup plus spécifique de ce point de vue-là. Alors, les différents points de méthode qui méritent le commentaire, ce sont d'abord les colonnes de droite, dans lesquelles vous voyez, il ne s'agit plus de comparer forcément le corpus de Proust avec d'autres corpus, mais aussi de voir comment, en combinant ces corpus deux par deux, on obtient d'autres indications. Je vous en donne un exemple. J'ai comparé Proust avec Barrès. C'est la colonne intitulée Roman de Barrès. Il faut entendre spécificité de Proust par rapport à Barrès. Cette fois-ci, vous voyez que la forme que arrive beaucoup plus tard, c'est-à-dire que Barrès fait aussi usage, lui, de phrases complexes et que Proust en utilise quand même plus que lui, mais la spécificité est moins grande. En revanche, cette fois-ci, chez Barrès, ce qui apparaît caractéristique de l'écriture de Proust, c'est avait, était, avait aussi. Deuxième personne, c'est-à-dire l'utilisation de l'imparfait, du plus que parfait, qui le caractérise par rapport à Barrès. Mais il peut être intéressant de regarder, c'est la colonne suivante, les spécificités des romans de Barrès dans les romans entre 1850 et 1950. C'est-à-dire quelles sont, de manière générale, les caractéristiques de Barrès. Alors, vous voyez que ce sont des mots comme Saxon, âme, colline, univers, etc. Vous allez en retrouver la contrepartie dans la page suivante, sur laquelle j'ai fait figurer les spécificités négatives, cette fois-ci. Alors, c'est un jeu de miroir, évidemment. Les spécificités positives de Proust par rapport à Barrès, ce sont les spécificités négatives de Barrès par rapport à Proust. Donc, si vous voulez retrouver les caractéristiques de Proust, vous allez lire donc dans la page suivante, même titre, Roman de Barrès dans les romans 1850-1950. Les mots que n'utilise pas Barrès par rapport aux autres romanciers de ce siècle, c'est l'adverbe ça, par exemple, qui est rejeté sans doute comme vulgaire, hein, je suppose, comme certains auteurs le pratiquent. Mais aussi, je note le rejet de la forme lorsque. Il se trouve que, regardez toujours dans la deuxième feuille, spécificité négative, ce rejet de la forme lorsque est aussi un rejet de Proust. Vous voyez, roman 1850-1950, puisqu'on est dans les spécificités négatives, il faut entendre par là que Proust répugne à utiliser la forme lorsque. Donc ça, c'est une répugnance stylistique qu'il a en commun avec Barrès. Ce qui fait que dans le résultat qu'on voyait tout à l'heure, ça ne va pas apparaître comme spécificité puisqu'ils ont le même rejet. Alors, je ne vais pas multiplier, ne serait-ce que pour pas vous importuner, c'est une un déplacement qui est assez pénible au bout d'un moment. Mais c'est pour vous donner une indication sur la manière dont il faut lire ces résultats. Il faut les lire en circulant dans tous les sens. C'est-à-dire que les particularités, on va prendre un autre exemple, les spécificités de Proust par rapport à la poésie. Je vous avais annoncé cette comparaison, a priori curieuse, tout à l'heure. Vous la trouvez dans la première page, dernière colonne, la colonne intitulée Poésie 1850-1950. Vous voyez que ce qui caractérise Proust par rapport à un corpus de poésie, c'est encore une fois la forme Ave, mais ça le distingue aussi de Barrès, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi le pronom elle, par exemple. Le point-virgule, et puis les formes que vous voyez ici. On ne peut s'en servir que si l'on a vérifié quelles sont les caractéristiques du langage poétique, de manière générale, par rapport au roman, en général. Alors, vous l'avez donc ça sur la page suivante, la page des spécificités négatives, dans la colonne roman versus poésie. 1850-1950. Vous avez là donc les spécificités négatives du roman et, à l'inverse, les spécificités positives de la poésie. C'est très facile à repérer, c'est la licence poétique encore qui arrive en tête, puisque c'est une licence qui, comme son nom le dit, ne peut être utilisée qu'en poésie. Et vous voyez qu'on y retrouve le point-virgule. Donc si Proust se caractérise par rapport à la langue poétique par l'usage du point-virgule, ça n'est pas de sa faute, si je peux dire, c'est tout simplement parce que tous les prosateurs utilisent davantage le point-virgule que les poètes, ce qui se conçoit pour des raisons triviales, là aussi. Donc on a toujours intérêt à faire des comparaisons de ce genre-là. Le dernier document que je vous ai distribué, c'est la liste des nullacs. Alors, les nullacs, c'est d'abord un mot forgé à partir d'apax, la pax étant la forme qui ne se retrouve qu'une seule fois. Le nullax, lui, ne se retrouve pas du tout dans un corpus. Alors, vous allez me dire, c'est bien difficile à mesurer. La définition qui en a été donnée, c'est que c'est un mot qui ne se trouve pas dans le corpus alors qu'il aurait dû s'y trouver. La deuxième partie de ma phrase, ou de ma définition, il aurait dû s'y trouver, est évaluée ici de manière statistique. C'est-à-dire, c'est une forme qui a une fréquence zéro dans le corpus. Donc chez Proust, ici, pour la plupart des colonnes, et qui présente une spécificité négative très importante, c'est-à-dire que c'est un mot qui est très utilisé par ailleurs, dans le reste du corpus. C'est un outil qui est assez intéressant, parce qu'il montre cette fois-ci non pas seulement les mots rares chez un auteur, mais les mots que l'auteur semble s'être interdit totalement, puisqu'on n'en trouve pas une seule occurrence. Vous voyez que du point de vue de l'analyse littéraire, ça donne des pistes de travail qui ne manquent pas d'intérêt. Prenez Proust, par exemple. Alors, importance du corpus. Vous voyez, dans les romans 1913-1922, on trouve Boyau, Mouron, Chameau, Touareg, Fusil, etc. Ce sont les romans de guerre de l'époque. Il y a Barbus, Le Feu, par exemple, dans ce corpus. On a déjà remarqué, quand je dis on, c'est Étienne Brunet dans son ouvrage, on a déjà remarqué que Proust utilise très peu le vocabulaire militaire, alors qu'il aurait pu, parlant de Saint-Loup, des affaires militaires qui s'y traitent, le roman se déroule pendant la guerre tout de même, aurait pu en parler. Mais là, il y a des mots que Proust n'utilise jamais. Vous voyez que si on élargit un peu l'empan au roman de 1850 à 1950, ce sont d'autres mots qui apparaissent. Alors, on a toujours du vocabulaire militaire, mais on a aussi, j'attire votre attention par exemple sur ce détail, les mots comme vacarme, fracas, qui n'existent pas chez Proust, que Proust n'utilise pas. Alors, il serait évidemment après intéressant pour une analyse littéraire de se pencher sur les sonorités dans la recherche ou quelque chose de ce genre-là. Mais encore une fois, ici, je ne parle que de méthodologie. Alors, vous verrez de la même manière, si on compare avec les romans de 1950-1970, évidemment, ce sont tous les néologismes qui vont apparaître. Alors, bon, il y en a d'assez malsonnants, parce que la recherche se les interdit également, mais vous trouvez radio, autobus, photo, camion, enfin, etc. Ce qui fait que là aussi, ce sont des résultats qui n'ont aucun intérêt littéraire si je puis dire, et qui ne sont là que pour l'intérêt de la réflexion méthodologique. Hein. Mais ce sont évidemment, pour d'autres mots, des mots que Proust n'utilise pas. Là, la comparaison avec un corpus disjoint est beaucoup moins intéressante. Alors, les points qu'il est intéressant de voir, mais je vais simplement les énumérer parce que je voudrais que nous puissions en discuter ensemble, ce sont d'abord les problèmes de la saisie. Il est très important de savoir sur quel corpus on travaille. J'ai signalé au passage quelques problèmes de la saisie franc-texte. Vous savez, si vous avez travaillé sur cette base, qu'il y a certains choix qui posent des problèmes au littéraire spécifiquement, comme par exemple l'exclusion des citations. Le découpage, le manque par exemple dans certains corpus des titres. Je pense par exemple aux titres de poèmes dans Les Fleurs du Mal qui ont fait défaut hein, pendant un certain temps dans la base. Certains corpus ont été découpés, là aussi parce qu'il s'agissait simplement de fournir un échantillonnage pour le TLF. Donc toujours réfléchir à ce que l'on mesure. J'ai eu quelques déboires l'année dernière avec le corpus de Madame de Staël parce qu'elle orthographie âme sans accent circonflexe, ce qui contribue à donner une spécificité positive très importante à cette forme, alors qu'il ne s'agit que d'un problème d'orthographe. Étienne Brunet nous montrait tout à l'heure des tableaux sur l'ensemble du corpus qui montraient justement ces problèmes de graphie. Autre question, celle de la lemmatisation. Je l'ai signalé très rapidement, j'ai travaillé sur un corpus non lemmatisé. Les résultats obtenus par Étienne Brunet, par exemple, sont très différents sur le plan des verbes. Parce que dans un corpus non lemmatisé, chaque verbe est éclaté dans toutes ses flexions. Et évidemment, les chiffres sont très différents. Donc il faut bien se poser cette question. Et même si, par nécessité, on travaille sur un corpus non lemmatisé ou par choix, il faut se rendre compte de ces phénomènes. Par exemple, un verbe paraîtra toujours moins fréquent dans un corpus non lemmatisé qu'un substantif. Donc, il ne faut pas céder là à des vertiges et à des illusions d'optique. La proportion des corpus est également quelque chose d'important. On en a vu un exemple tout à l'heure avec le roman 1913-1922, dans lequel en réalité Proust représente une portion non négligeable. Hein, donc les résultats statistiques sont justes, mais les informations qu'elles nous donnent ne sont peut-être pas très intéressantes du point de vue littéraire. La question des corpus imbriqués. Alors, on a vu tout à l'heure que l'on peut travailler sur des corpus, je dirais, naturellement imbriqués, comme par exemple Proust dans son époque, mais que l'on peut aussi disjoindre ces corpus. On peut comparer Proust, par exemple, avec le roman 1950-1970 ou avec la poésie. Alors, ça ne pose pas de problème statistique, à condition évidemment de réunir les corpus, mais à ce moment-là, il faut bien faire des comparaisons entre le corpus générique, par exemple, de l'auteur, et puis le corpus auquel on a voulu le comparer. Avant de savoir ce qui appartient à Proust dans la comparaison entre Proust et le corpus poétique, il faut d'abord savoir, par exemple, ce qui est propre à la prose ou au roman par rapport à ce même corpus poétique. Sinon, là aussi, on risque de céder à des illusions d'optique. Les formes et les thèmes, c'est un travail important en aval, c'est-à-dire pour l'analyse. Ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, ce sont des statistiques sur des formes graphiques, des suites de lettres. Il est toujours subjectif et un peu périlleux de ramener ça à des thèmes, parce que, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que ce lexique n'a pas été désambiguisé. Étienne Brunet fait par exemple dans son livre une remarque sur la forme or, or. Hein, qui peut être de l'or, mais qui peut être aussi la conjonction. Il y a un certain nombre de cas comme cela dans lesquels il faut faire très attention aux problèmes d'homographie qui peuvent évidemment donner lieu. J'ai eu par exemple le problème avec Grange, qui est le nom d'un personnage en réalité, mais qu'on pourrait attribuer à une grange et partir sur des discours sur le fait que le monde de Proust n'est pas très bucolique. Vous voyez que ce serait inutile dans ce cas-là. Donc, Éventuellement, et là aussi la nouvelle version de Frontex nous le permet, toujours revenir au contexte. Aller voir dans les textes, dans le corpus, ne serait-ce que par sondage, d'où viennent ces formes. Ramener un thème, c'est une opération qui ne peut pas être automatisée dans l'état actuel de la technique, mais ce n'est pas seulement une question technique, il faudrait encore définir ce qu'est un thème. Voilà, je vais m'en tenir là. Pour laisser un peu de temps peut-être à la discussion. Encore une fois, mon objectif n'était que de vous montrer une méthode, de vous permettre de regarder par-dessus mon épaule lorsque je fais ce type de travail, qui a après évidemment des conséquences dans l'analyse littéraire des œuvres, et pour discuter avec vous donc des points de méthodologie que j'ai signalés à la fin.
Alors, merci pour cet exposé extrêmement clair. On peut considérer que l'hypoglycémie ne nous frappera que dans 10 minutes et les utiliser pour des questions et réponses. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Bénédicte Pincemain. Étienne Brunet.
Je trouvais intéressant la question par rapport à la lématisation, parce que vous sembliez tenté par une lématisation. À la fin, vous disiez finalement ça serait intéressant. Vous faisiez des considérations sur les verbes. Et justement, je me rapprochais des premières remarques que vous aviez faites sur la liste de spécificité, où vous disiez que finalement, dans le verbe avait, j'avais non seulement l'auxiliaire avoir, mais ce qui semblait peut-être non moins important, l'emploi de l'imparfait. Si vous travaillez sur des formes lématisées, est-ce à dire que vous perdez l'information sur l'imparfait, par exemple? Est-ce que vous auriez un texte qui aurait à voir et vous auriez perdu l'information liée à la flexion?
Les deux sont possibles. Là encore, je renvoie au livre d'Étienne Brunet qui montre que l'on peut avoir, du moment qu'on a une lématisation, on a en quelque sorte en amont, normalement, une analyse des formes. Donc, il est possible de regrouper toutes les formes de l'imparfait et de les analyser en tant que telles, et de savoir par exemple quelle est la proportion de l'imparfait, du futur, dans tel ou tel corpus. Un des inconvénients, mais aussi un des avantages d'un autre point de vue des index non lématisés, c'est que l'on a toutes les informations en même temps. Mais au fond, on est dans la même situation que le lecteur, qui lui aussi a toutes les informations en même temps. Avait, c'est une forme du verbe avoir. C'est une indication sur les temps utilisés par Proust. C'est aussi une indication stylistique, parce que c'est un imparfait, parce que c'est une troisième personne, ainsi de suite. Donc j'ai tout en même temps. L'idéal, dans un monde idéal, ce serait évidemment d'avoir tout, c'est-à-dire de pouvoir choisir entre un index non lématisé, un index lématisé, un index regroupé de manière grammaticale, sémantique, pourquoi pas, si ça peut avoir un sens un jour, et de comparer tous ces index. Mais pour le moment, il ne faut pas se cacher qu'il est souvent beaucoup plus commode, ne serait-ce que pour la sécurité statistique, de travailler sur des index non lématisés.
Étienne Brunet. Oui. Oui. Une fréquence positive.
Je suis très sensible au renversement de perspective que je viens d'entendre dans ton discours. D'habitude, on étudie les textes par rapport à une référence ou par rapport tout simplement à l'ensemble des textes qui constituent le corpus. Or là, tu parles d'un texte, celui de Proust, qui est large, effectivement, et tu compares d'autres corpus que tu appelles des corpus de référence. C'est une perspective qu'on a rarement utilisée jusqu'ici et qui est très importante parce que très souvent, ce qu'on obtient quand on a une comparaison avec un corpus de référence, et on obtient quelque chose qui n'est pas caractéristique du texte qu'on étudie, mais qui est caractéristique du corpus de référence. J'en vois un exemple avec le point de suspension. Alors là, il y a deux caractéristiques. Il y a celle de Proust qui dit expressément qu'il déteste les points de suspension comme étant impudiques, parce qu'il laisse entendre plus qu'il ne dit. Enfin, il y a un texte de Proust là-dessus. Mais c'est caractéristique aussi du corpus de référence, du moins quand c'est celui de Frontex. Pourquoi ce manque de suspension chez Proust? Parce que ces lignes utilisent abondamment le point de suspension au risque de perturber la norme. Donc c'est intéressant d'analyser aussi les corpus de référence comme tu viens de faire. C'est vrai également pour l'imparfait. On a des textes de Proust qui disent la ferveur qu'il a pour l'imparfait, pour ce temps cruel dont il maîtrise l'usage chez Flaubert. Effectivement, quand on étudie les formes, quand il a fait, on voit tout soudain émerger l'imparfait, beaucoup plus que le présent. Mais c'est vrai aussi qu'il faut étudier les différents corpus, et quand nous avons le corpus moderne et qu'on voit apparaître le mot de Cambronne, alors ça c'est très curieux, Proust ne l'utilise pas une seule fois, c'est un nul axe. Ah oui, mais il y a des pages là-dessus, il y a des longues pages de commentaires là-dessus, lorsqu'il évoque Saint-Médard. Eh bien, c'est derrière, il y a ce mot qui porte bonheur quand on marche dessus. C'est dans Proust. Il évoque évidemment la chose, mais il ne le dit pas. Voilà, je voulais simplement dénoter. Première et dernière question te demander. Si tu as mis en parallèle tous ces corpus de référence à propos de Proust. Et si tu n'as pas fait une étude générale de tous ces corpus de référence qui donnent pour chacun des mots un écart, c'est la loi hypergéométrique que tu as utilisée, mais peu importe, ça pourrait être l'écart réduit. Donc tu aurais toute une liste de mots avec des écarts réduits ou des tests statistiques hypergéométriques, et puis tu ferais une analyse globale de tout cela. Et on verrait les corpus s'opposer les uns aux autres relativement à tout ce qui serait derrière le rideau et qu'on ne verrait pas.
Oui, tout à fait. Il serait possible d'organiser tout cela en tableau. Je crois que ce serait intéressant d'ailleurs pour les chercheurs de disposer en quelque sorte d'abac qui permettrait de savoir un peu a priori, alors à partir des données Frontext, ce qui caractérise le roman dans telle époque, ou ce qui éviterait, je crois, des erreurs d'optique comme celles que j'ai signalées. Mais le plus simple, souvent, et ce que permet maintenant Frontext, c'est de découper un corpus sur mesure par rapport à l'auteur que l'on étudie. Là, j'ai pris des choses de manière un peu globale, mais on aurait pu, par exemple, exclure certains auteurs, ou au contraire en rajouter d'autres pour avoir un corpus fait sur mesure. Mais ce qui est important de montrer, c'est qu'il n'y a pas de sécurité et d'automaticité dans le domaine. C'est-à-dire que chaque fois qu'on choisit un corpus, on va susciter l'apparition de certaines spécificités. Et il n'y a pas de choix qui s'impose dans la matière, de choix innocent. Chaque fois qu'on prend un corpus, et le pire serait d'être innocent, justement, c'est-à-dire de prendre un corpus en s'imaginant qu'il est représentatif de l'ensemble. Pierre Lafont a suffisamment parlé de l'insécurité dans les grands ensembles pour que l'on sache quel est le risque de prendre un très gros corpus en se disant, puisqu'il est très gros, il n'y aura pas d'artefact à cause des proportions. C'est ce qui se passe par exemple dans le roman 1850-1950. Tu rappelais tout à l'heure la présence de Céline, par exemple, au moins dans une bonne partie de ce corpus. Ça va faire augmenter la spécificité négative des points de suspension sur l'ensemble des autres auteurs. Hein. Tout est proportionnel et il faut s'en méfier.
Autre intervention, madame.
Geoffroy, moi j'ai de grosses réticences sur l'addition des colonnes. On a en fait une seule réalité, Proust la recherche, d'accord. Et le tableau qu'on nous a donné, c'est 11 colonnes. Quelquefois il y est, quelquefois il n'y est pas, quelquefois il y a un morceau, quelquefois il y a des romans. Alors ça a un effet de saturation que je trouve à la limite de la malhonnêteté. Parce que dans 8 sur 10 des cas, on compare à des romans. Alors ma question, la seule réelle, est pourquoi ne pas avoir fait une fois un corpus avec les éléments auxquels on voulait comparer Proust et ne pas en changer en cours de route. Parce qu'en fait, ce tableau-là, c'est 11 expériences binaires avec chaque fois qu'on le dise ou non, un corpus d'ensemble qui réunirait Proust et ce qu'on a dit. Et ça a un effet de totalisation qui est un pur artifice. Alors ma question est, pourquoi avoir préféré une suite de comparaisons binaires à une comparaison qui ne se donnerait pas les gants de dire je fais 50 corpus, mais j'en ai un, et c'est parce que c'est à ça que je veux comparer Proust. Sinon, on a, je crois, des fausses trouvailles. Quand on fait 4 corpus de romans, on va voir les mêmes spécificités de Proust, on va dire, ah ben ça, c'est une vraie spécificité. En fait, c'est parce qu'on aura mis d'autres romans qui s'opposent à Proust dans les 4 sous-corpus. Le tableau, là, qu'on nous a donné, il me met un peu en colère.
Bon, enfin, si ça suscite cette réaction, c'est ce que je voulais montrer, justement, mais c'est ce qui explique peut-être votre colère, c'est que d'habitude, justement, on dit, je compare Proust, mettons, à un corpus de référence. Mais ce corpus de référence est donné comme irrécusable. Alors que ce que je voulais montrer justement, ce qui explique cette kyrielle de comparaison, c'est que ce choix du corpus de référence est très important et qui donne des résultats parfois différents. Donc, lorsqu'on choisit un corpus de référence, et bien entendu que si je faisais une analyse littéraire, si je partais de là pour faire une analyse littéraire plus continue, il faudrait que je choisisse un corpus littéraire. Mais je crois qu'on le fait de manière d'autant plus fondée qu'on a comparé les résultats obtenus à partir de plusieurs corpus de référence. Il n'existe pas un corpus de référence. Et chacun de ces corpus, je donnais leur justification tout à l'heure, on peut tout à fait imaginer que dans une étude littéraire, il soit choisi. Dans ce que j'ai publié, par exemple, jusqu'à maintenant, généralement, je n'ai pris qu'un corpus. Et je m'en suis expliqué, mais personne ne m'a fait reproche du corpus que j'avais pris. Alors qu'en réalité, on peut obtenir des choses très différentes. Et c'est un peu le risque de ces études comparatives de corpus, c'est, parce qu'elles sont très lourdes à mener, de ne s'appuyer que sur un seul corpus, en donnant l'impression que c'est le seul corpus possible. Bon, Étienne Brunet, par exemple, pour prendre ses corpus de référence, s'appuie parfois sur l'ensemble de Frantex de 1789 à nos jours, parfois sur la prose littéraire à l'époque de Proust, parfois sur le roman à l'époque de Proust. Vous voyez, ce sont des corpus différents, mais qui vont donner des résultats différents aussi. Et le seul intérêt de mes tableaux, c'est justement de montrer que les résultats statistiques sont aussi différents. Il ne faut pas s'en étonner. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
On ne peut le faire à la fois que dans un corpus de référence. Donc ces 11 colonnes-là, à mon avis, c'est une illusion de corpus de référence public. C'est sur ça que je discutais. Bien sûr, c'est utile de faire plusieurs comparaisons. Mais dans ce tableau-là qui nous a été donné, il me semble que les 11 comparaisons binaires sont à chaque fois biaisées et ça produit une illusion de comparaison plus variée et plus totale qu'on obtiendrait, je pense, beaucoup plus facilement avec un corpus où il n'y aurait pas de doublon. Une pousse ne serait pas répétée deux ou trois fois parce que là il l'est.
Non.
Et qui serait contrôlé. Mais au moins, l'idée qu'il n'y a pas de
Ah oui, non, je comprends votre question et votre indignation que je partagerais si j'avais voulu par là dire, en additionnant toutes ces comparaisons, on arrive à faire une vraie analyse par rapport à une sorte de corpus global. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu appuyer une étude littéraire fondée sur chacun des tableaux. Mais en réalité, on aurait chaque fois fait des choix qui n'auraient peut-être pas été comparatifs.
Dernière intervention, Pierre Lafond.
Cette discussion, je voudrais intervenir exactement sur ce point du corpus et d'expérience binaire, en quelque sorte, qu'a présenté Michel Bernard. Alors, moi, je dois dire que je ne sais pas s'il s'agit d'un effet d'école, mais je suis quand même plutôt du côté de la position d'Annie Geffroy sur cette question. C'est-à-dire, j'ai un peu le vertige quand on me dit, par exemple, je lis dans ces pages qui ont été distribuées, que Proust n'a jamais utilisé le mot pépé et boyau, et je sais ça parce que j'ai comparé au roman de 1913 et 1922, et puis il n'a jamais utilisé pingouin parce que on l'a comparé à des romans d'Anatole France. Et puis, alors, j'ai un peu le vertige de la, comment dire, du peu d'informations que ça donne sur l'œuvre de Proust, si vous, j'ai un peu le vertige de, de monter des expériences qui sont quand même compliquées. Ça met en jeu des millions d'occurrences. On interroge Frontex, on est sur Internet, etc. Pour, disons, avoir des informations qui sont minuscules et qui chaque fois demandent une interprétation très minutieuse, etc. Et je suis absolument convaincu qu'on ne peut pas tirer de l'ensemble, on ne peut pas, de toutes ces expériences, tirer toutes les informations qu'elles contiennent. C'est absolument impossible. Et tu aurais pu, évidemment, avoir non pas 11 colonnes, mais 36. Et il y aurait eu encore des tas de choses que tu pourrais minutieusement découvrir comme ça. Alors je pense que quand on parle de corpus de référence, ça a plusieurs sens. Par exemple, Étienne Brunet se sert en permanence dans son programme d'une comparaison avec l'ensemble de Frontex. Alors là, on peut dire, bon, c'est un corpus de référence. Mais le sens dans lequel l'emploi admis, c'est pas tout à fait le même. Corpus de référence, ça serait un corpus justifié avec des hypothèses par rapport à ce que tu cherches à trouver dans l'œuvre de Proust. Tu as des hypothèses et en fonction de ces hypothèses, tu vas former tel ou tel corpus. Et il y en a 100 000 corpus différents qu'on peut former, bien sûr. Et ça n'est pas du tout le même sens que référence au sens de Brunet. Hein. C'est un corpus de référence par rapport à tes hypothèses, à ce que tu veux prouver dans Proust. Référence, dans ce cas.
Oui, deux mots, hein, je n'entreprends pas une réponse complète, mais encore une fois, c'était mon objectif, hein, de montrer que le choix du corpus de référence implique des résultats différents, parce que personne ne pourra me dire quel est le bon de corpus. Hein, on est bien d'accord, il n'y a pas de bon corpus, mais c'est un peu, Étienne Brunet tout à l'heure donnait un exemple de ce cas-là en disant qu'il avait peur de retrouver dans les résultats ce qu'il avait mis dans la marmite. C'est toujours un peu le risque en statistique, avec en plus le risque que les statistiques en imposent et que l'on ait l'impression qu'elles donnent une certaine forme de vérité. Suivant le corpus que je choisis, j'obtiens des résultats différents. Alors c'est vrai, Pierre, que ça dépendra de ce que j'attends d'y trouver. Par exemple, si je veux savoir comment Proust se situe par rapport à ses prédécesseurs, ou si je veux savoir comment il inaugure une voie dans le roman français, je ne vais pas prendre le même corpus. Mais bien sûr qu'il y en a d'autres, hein. On pourrait découper une infinité de corpus dans la combinaison que nous propose Frontex. Encore une fois, moi je voulais simplement insister sur du point de vue méthodologique, hein, parce que je ne me suis pas livré à une étude de Proust ici. Et personne, je crois, pour faire une étude de Proust, ne se livrerait à l'ensemble de ces statistiques. Ce que je voulais montrer, c'est l'importance du choix du corpus de référence, qui n'est pas anodin. Hein. Donc là, je crois qu'on est d'accord sur ce point-là.
Alors, comme le vertige et la colère sont deux symptômes de l'hypoglycémie, je pense qu'on va arrêter là la discussion pour la reprendre éventuellement demain après-midi dans la discussion générale. J'abuse de ce micro pour faire une petite remarque. C'est qu'on est devant un problème de méthodologie qui est un problème de discipline en même temps. C'est-à-dire que les littéraires, par leurs habitudes, partent toujours d'un auteur, c'est une habitude qui pourrait être critiquée, discutée, etc., pour aller chercher à le caractériser relativement aux autres, alors que les gens de la statistique ont l'habitude de partir du global pour aller vers le local, pour discriminer. Et là, on est dans deux logiques qui peuvent se contredire. La notion de corpus de référence, en fait, la vraie référence pour un littéraire qui travaille sur Proust, c'est Proust, et puis tout le reste. Vous voyez, donc là, une différence d'approche qui rend le dialogue difficile, à mon avis, pas impossible, mais difficile. Pierre Fiala, oui.
Je me parais quand même protestant. Oui. Ce n'est pas
comme c'était une thèse et non pas une question, nous passerons à d'autres thèses cet après-midi, donc à partir de 14 heures, mais la salle sera ouverte avant, je pense. Monsieur, à quelle heure sera-t-elle ouverte? Moins quart, moins 20. Hein, par ailleurs, nous nous permettons d'inviter les conférenciers à un symposium qui va se tenir dans l'immédiat au Buisson Ardent en face.